Merci de m'avoir invité. J'espère que j'aurai rempli mon contrat de manière satisfaisante. Mais pas toujours évident de s'engager à faire une œuvre de commande, n'est-ce pas? Donc le sujet de cette session est l'économie politique des réformes, qui est un sujet sur lequel j'avais pas mal travaillé en ce qui concerne les réformes du marché du travail il y a maintenant assez longtemps. Et maintenant je m'intéresse à un aspect un peu différent de ces problèmes, qui est dans quelle mesure les obstacles aux réformes du marché du travail sont-ils soutenus par la persistance de croyances conduit les gens à considérer que ces réformes ne sont pas bonnes pour eux. Dans mes travaux antérieurs, la question que je me posais était dans quelle mesure peut-il être rationnel pour certains groupes sociaux, bon, notamment entre guillemets les insiders, c'est-à-dire les travailleurs de niveau de qualification intermédiaire et relativement bien protégés, dans quelle mesure pouvait-il être rationnel pour ces travailleurs de s'opposer aux réformes et de se mobiliser ou de voter en faveur de rigidité du marché du travail telles que celles que nous connaissons, protection de l'emploi, salaire minimum, éventuellement un niveau élevé d'indemnisation du chômage, etc. Bon, alors tout ça c'est intéressant, mais évidemment ça ignore le rôle des croyances et des idéologies. Et si on veut expliquer pourquoi finalement en France il y a une telle résistance aux réformes qu'on observe ni dans les pays anglo-saxons, ni dans les pays sociodémocrates de type scandinave, qui peuvent aller assez loin dans des choses comme la réforme des retraites, la réforme du marché, des marchés des biens, et même dans une certaine mesure la réforme du marché du travail, eh bien, on est obligé de constater que l'une des particularités de la France, c'est qu'il règne une hostilité nominale, réelle je ne sais pas, mais en tout cas nominale, à l'économie de marché. L'année dernière est sorti un sondage qui a fait pas mal de bruit, où je ne sais plus quel think tank avait interrogé les habitants de divers pays sur leurs opinions sur l'économie de marché. Et ce qui ressortait de ce sondage, c'est que parmi un panel de pays qui inclut non seulement des pays développés, mais aussi pas mal de pays moins développés et des pays de revenus intermédiaires, eh bien, la France était championne toute catégorie de l'hostilité à l'économie de marché, puisque 36% des gens étaient d'accord avec la proposition selon laquelle la libre entreprise et l'économie de marché étaient le meilleur système sur lequel basait l'économie mondiale, alors que une majorité de gens dans la plupart des autres pays, même une large majorité, était en faveur de cette proposition, et en tout cas cette proposition avait été majoritaire par rapport à la proposition contraire dans tous les pays sauf la France. Alors, ce qui est assez remarquable dans ce sondage, c'est que des pays qui finalement ont pâti de certains aspects de l'économie de marché, comme par exemple la mobilité excessive des capitaux et les mouvements excessifs des taux de change, l'Argentine, le Brésil, sont des pays où, malgré cela, il y a plus de soutien populaire en faveur de l'économie de marché que la France. Et de même, même en Russie, les opinions favorables à l'économie de marché sont majoritaires, bien que la transition vers l'économie de marché en Russie ait été particulièrement douloureuse. Donc là, il y a un peu un paradoxe, et ce qui serait intéressant, ça serait d'expliquer ce paradoxe. Donc, ce que je vais dire est quand même relativement évident et facile à comprendre. On peut considérer qu'il y a je vais m'intéresser à deux sources de persistance de ces croyances. D'une part, la propagande pure et simple, et d'autre part, l'existence de biais de sélection, ce que j'appelle le biais de sélection parmi les clercs au sens large, c'est-à-dire ceux qui distillent le savoir, c'est-à-dire ceux qui forment les croyances, mais parmi ces clercs, je vais plus particulièrement m'intéresser au rôle des enseignants. Alors tout d'abord, parlons de la propagande. La question qui se pose est dans quelle mesure y a-t-il une marge de manœuvre pour manipuler les croyances à travers la propagande. Alors les économistes ont quelques petites choses à dire sur le sujet. Il y a une littérature qui s'intéresse à des phénomènes genre les cascades informationnelles. Et cette littérature dit que si Paul observe que Pierre fait ceci ou croit cela, eh bien Paul peut en déduire que Pierre a une information privée sur l'état du monde que lui n'a pas et peut vouloir s'aligner sur Pierre. Donc ça peut conduire à un phénomène à des phénomènes de type mouton de panurge où tout le monde fait la même chose, tout le monde croit la même chose. Et cette chaîne de croyance a été déclenchée par l'alignement d'un individu sur un autre individu. Et ensuite, ça a fait boule de neige. Ce qu'on en conclut, c'est que, au bout du compte, les croyances de l'individu d'origine jouent un rôle trop important dans la formation des croyances parce qu'il y a une externalité informationnelle qui entre en jeu. Si, au lieu de m'aligner sur Pierre, je faisais un effort pour apprendre par moi-même ce qu'il en est, par exemple par l'expérience, eh bien, j'aurais moi-même une information privée supplémentaire dont les autres pourraient à leur tour profiter. Mais évidemment, en apprenant par moi-même, j'exerce une externalité positive que je n'internalise pas. Et donc, au lieu d'avoir cela, on a un excès de cascade informationnelle. Alors, l'une des caractéristiques de cet argument, c'est que ça peut conduire à une trop grande volatilité dans les croyances, si je puis dire, mais ça ne conduit pas, a priori, à des biais systématiques dans un sens ou dans l'autre. Ce qui m'intéresse plutôt, c'est de savoir dans quelle mesure il peut y avoir des biais systématiques. Et là, je voudrais montrer très simplement comment certains groupes d'intérêt peuvent avoir intérêt à propager ces biais systématiques. Cela, quelle que soit l'information dont ils disposent. Indépendamment de leur propre croyance, ils peuvent avoir envie de propager l'idée que c'est blanc, c'est noir, c'est gris. Pour ça, je prends un exemple simple. Supposons qu'il y ait trois groupes de travailleurs. Les travailleurs les plus qualifiés, qui sont complémentaires des moins qualifiés dans la fonction de production. Les travailleurs les moins qualifiés. Et des travailleurs intermédiaires, qui sont... Alors là, déjà, ça y est, il y a un lapsus dans la diapositive. Les intermédiaires qui sont substituts des travailleurs les moins qualifiés, mais qui sont plus productifs que les moins qualifiés. Évidemment, s'ils étaient moins productifs, ça ne serait pas eux les moins qualifiés. Ça ne serait pas les autres les moins qualifiés. Alors, qu'est-ce qui se passe dans un monde pareil? Supposons que cette société se demande s'il faut augmenter le salaire minimum, et supposons que le salaire minimum, eh bien... soit contraignant pour l'emploi des moins qualifiés, mais qu'à la marge, on ait quand même envie d'embaucher un certain nombre de moins qualifiés. Qu'est-ce qui va se passer si j'augmente le salaire minimum? Eh bien, les entreprises vont réduire le taux d'emploi des moins qualifiés parce que ceux-ci sont plus coûteux à embaucher. Au moment où ils réduisent l'emploi des moins qualifiés, eh bien, l'input moins qualifié travailleur intermédiaire, qui est le même input parce qu'ils sont parfaitement substituts, va diminuer dans la fonction de production. Donc sa productivité marginale va augmenter et on va se retrouver dans une situation où la nouvelle productivité marginale de cet input joint va justifier le paiement du salaire minimum au moins qualifié. D'un autre côté, en ce qui concerne les qualifiés, ils ont un input complémentaire plus faible dans la fonction de production, donc leur productivité marginale va baisser. Si leur marché est en équilibre, eh bien leur salaire va baisser. Il y a deux groupes de travailleurs qui peuvent affirmer que quels que soient les paramètres sous-jacents qui gouvernent cette fonction de production, ils peuvent dire s'ils vont gagner ou perdre de cette mesure. D'une part, les qualifiés qui savent que de toute façon ils perdront parce que quelles que soient les élasticités, leur productivité marginale baisse. D'autre part, les travailleurs intermédiaires, parce qu'ils sont parfaitement substituts avec les moins qualifiés, mais ils sont plus productifs. Donc, il y a une moindre concurrence des moins qualifiés à l'égard des travailleurs intermédiaires. Le salaire des travailleurs intermédiaires à l'équilibre va être égal, va être proportionnel au salaire des moins qualifiés. Si j'augmente le SMIC, eh bien j'augmente le salaire des travailleurs intermédiaires dans la même proportion que le SMIC. Mais la différence, c'est qu'eux savent qu'ils vont conserver leur emploi parce que leur productivité, le maintien marginal est maintenu au-dessus du SMIC. Donc finalement, le groupe social qui est critique dans cette histoire, ce sont les moins qualifiés. Ils savent que s'ils conservent leur emploi, leur salaire va augmenter, mais ils savent qu'à cause de la hausse du salaire minimum, ils ont une certaine probabilité de perdre leur emploi. Donc si on vote à propos du salaire minimum, eh bien les plus qualifiés sont contre, les travailleurs intermédiaires sont pour, et le choix des moins qualifiés, en supposant qu'ils maximisent sous une sorte de voile d'ignorance leur utilité espérée, le choix des moins qualifiés dépend de leur probabilité d'emploi, c'est-à-dire, in fine, de l'élasticité de la demande de travail. Donc on voit bien que, par exemple, un syndicat qui représente les travailleurs intermédiaires a intérêt à propager la croyance que l'élasticité de la demande de travail est faible, parce qu'à ce moment-là, il va coopter les moins qualifiés dans le soutien politique pour la hausse du salaire minimum. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que cette incitation à propager ces croyances est indépendante de la vraie valeur de l'élasticité de la demande de travail. Et donc, quelle que soit l'information dont dispose ce syndicat, quelles que soient ses propres croyances, il va avoir intérêt à propager la croyance que l'élasticité est faible. Du moins, tant que le travailleur marginal reste un moins qualifié, si la hausse du salaire minimum est telle que tous les moins qualifiés perdent leur emploi et que le travailleur marginal et devient intermédiaire, évidemment, les conclusions sont différentes. Alors on a un cas d'école qui s'est produit là-dedans en France, c'est il y a maintenant 7 ans, la fameuse affaire Larocque-Salagné, où ils avaient publié un article disant que 10% de plus de SMIC détruisait 290 000 emplois, et où il y a un syndicat qui représente justement les travailleurs intermédiaires, la CGT, qui a lancé une offensive, parfois à tonalité, pendant des tours d'attaque assez personnelle, contre la publication de cet article. Ils ont fait un manifeste qui est d'ailleurs accessible sur Internet, qui se conclut par la phrase suivante: « Le comité de direction doit assumer ses responsabilités vis-à-vis de l'opinion publique et donc faire savoir que la publication de cet article a été une erreur. » Quand on voit le CV de Larocque et Salagné, on peut être un peu surpris par ce genre de choses. Alors, une question sur laquelle, au fond, je n'ai pas, et qui est une question très importante, mais sur laquelle j'ai peu d'éclairage à offrir, c'est comment le biais peut-il subsister? Parce qu'évidemment, au fur et à mesure que le temps passe, il y a des Larocque et Salagné qui font des régressions, il y a un apprentissage qui aide. Bon, bien évidemment, dans le cas qui nous occupe, le biais peut subsister parce que l'économie n'est pas une science exacte. Et d'ailleurs, quel que soit le paramètre qu'on veut apprendre, il y a une distribution d'estimation de ce paramètre qui peut être assez large, et notamment en ce qui concerne les élasticités de substitution entre facteurs. C'est typiquement le genre de paramètre où, suivant les études empiriques, on trouve des résultats assez différents. Et d'ailleurs, la CGT intelligemment, pour apporter de l'eau à son moulin, invoquer d'autres études qui montrent que l'élasticité de la demande de travail est faible. Tant qu'il y a cette incertitude due au fait qu'on n'a pas affaire à une science exacte, il est bien évident que cela peut ralentir ou empêcher l'apprentissage des vrais paramètres de l'économie. Un deuxième aspect qui est important, c'est que dans des domaines qui, au fond, sont relativement complexes, les choix politiques requiert des capacités cognitives importantes. Et en particulier, dans l'exemple que j'ai donné, eh bien, les plus qualifiés savent très bien qu'ils perdent, les travailleurs intermédiaires savent très bien qu'ils y gagnent, et ceux qui ont besoin de la capacité cognitive la plus importante pour choisir, pour faire leur choix politique, ce sont précisément les travailleurs dont on s'attend à ce qu'ils aient la moindre capacité cognitive, qui sont les travailleurs moins qualifiés. Parce que eux, pour pour être capables de faire ce choix politique, ils ont besoin de comprendre ce que c'est que l'élasticité, ce que c'est que la demande de travail, etc. Et enfin, et là ça va me servir de transition vers mon deuxième argument, le processus d'apprentissage est conditionné par les croyances a priori, les priors, qui sont inculquées par le milieu social au sens large et par le renouvellement des générations. On n'a pas affaire à un agent qui vit indéfiniment et qui est constamment en train de réviser ses croyances. On a affaire à des nouvelles générations dont les priors ne sont pas directement hérités des posteriors des générations précédentes, mais sont eux-mêmes, mais reflètent eux-mêmes un certain nombre de biais idéologiques. Ce qui me conduit au deuxième phénomène dont je voudrais parler ce matin, qui est l'existence d'un biais endogène dû à l'autosélection des clercs. Alors, l'idée est simple. L'idée, c'est que les clercs transmettent en partie leurs propres croyances, enfin, en partie en ce qui concerne les enseignants et en totalité en ce qui concerne les journalistes. Et et par ailleurs, il y a des gens qui font le choix de ce type de carrière. Et ce choix est lui-même déterminé par les croyances qu'on a a priori. Donc ça ne va pas être n'importe qui va être enseignant, qui va être journaliste, etc. Ce sont des gens qui, au départ, ont des croyances qui ne sont pas un échantillon représentatif des croyances de la population. Donc les croyances des clercs sont biaisées. Alors voici un exemple frappant. Ça vient du site internet de la SOFRES. C'est un sondage datant de 2001 sur les intentions de vote des enseignants. Alors si on fait la somme de l'extrême gauche, on trouve 13%. Et si on fait la somme de la gauche, on trouve quelque chose comme 59%. Donc si j'ajoute les 59% et les 13%, j'arrive à quelque chose qui est supérieur à 70%. Donc il y a un biais extrêmement fort sur les opinions politiques des enseignants. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que les gens émergent du système scolaire, du milieu familial, avec un certain nombre de croyances a priori sur le fonctionnement de l'économie de marché. Et il est évident que si je pense que l'économie de marché est une mauvaise chose, je vais penser par la même occasion que si je choisis un emploi dans le secteur marchand concurrentiel de l'économie, eh bien je vais probablement être malheureux, à moins que je fasse comme Serge Julie, que je vienne chef d'entreprise, et à ce moment-là, si je crois que les chefs d'entreprise sont des exploiteurs et s'en mettent plein les poches, je vais pouvoir devenir chef d'entreprise. Mais si je veux devenir employé, à ce moment-là, je vais d'autant plus choisir une carrière protégée, par exemple, dans la fonction publique, que j'ai des croyances a priori négatives sur le fonctionnement de l'économie de marché. Alors, si là-dessus, on rajoute le fait que dans la quasi-totalité des économies, le secteur éducatif est effectivement dans le secteur protégé, il est public, parapublic, et bien à ce moment-là, on comprend pourquoi on trouve l'existence de ce biais chez les enseignants. La question qui m'intéresse, c'est quelles sont les conséquences de l'existence de ce biais pour l'évolution des croyances de la société dans son ensemble à long terme. Alors pour ça, j'ai écrit un petit modèle simple que je ne vais pas vous présenter. Mais les ingrédients de ce modèle sont les suivants. Les priors sont déterminés par deux facteurs, l'école et le milieu familial. Et l'aspect économique du modèle est extrêmement simple. Je suppose que dans le secteur marchand, il y a une certaine variable qui représente la précarité de l'emploi. Si cette variable est élevée, on perd son emploi souvent. Si cette variable est faible, on perd son emploi peu souvent. Et le prior se ramène à un seul nombre, qui est la probabilité P que vous mettez sur le fait que la précarité soit élevée. Donc, plus P est élevé, plus vous êtes hostile, entre guillemets, à l'économie de marché. Ensuite, si vous héritez d'un P élevé, comme résultat de l'influence de l'école et du milieu familial, eh bien, comme je l'ai dit, vous allez avoir plus envie d'être fonctionnaire, et donc vous allez investir plus de ressources pour passer les concours de la fonction publique, etc. Donc plus P est élevé, plus la probabilité que vous deveniez fonctionnaire est élevée.
Et c'est la probabilité ou la perception de la probabilité?
C'est la perception de la probabilité, puisque c'est le prior. Maintenant, ce paramètre sous-jacent de l'économie, il a une valeur qui est soit élevée, soit faible. Donc on aurait P égale 0 ou 1. Alors là aussi, il y a un sondage intéressant qui montre dans quelle mesure, qui laisse penser que effectivement l'hostilité des Français envers l'économie de marché, qui est, on peut le supposer, renforcée par les croyances des enseignants que j'ai montré tout à l'heure, débouche sur effectivement un désir élevé d'intégrer la fonction publique, puisque donc ça, c'est un sondage sur les souhaits de carrière des jeunes diplômés, et on trouve que 70% des jeunes diplômés sont tous les jeunes qui sortent du système scolaire à différents niveaux, 70% de ces jeunes envisagent d'intégrer la fonction publique, en général. Alors dans ce modèle, il y a deux paramètres importants. D'une part, ce que j'appelle l'héritabilité, qui est le poids de la famille dans la formation des croyances. Et deuxièmement, l'entropie sociale, qui est une mesure de la ségrégation occupationnelle des gens, qui est l'inverse de la prévisibilité du statut en fonction de P. Donc plus cette entropie sociale est faible, plus je peux prédire que quelqu'un qui a telle de valeur de P va être fonctionnaire. D'accord ? Donc si cette entropie sociale est nulle, ça veut dire que ceux dont la valeur de P est supérieure à un certain seuil vont tous devenir fonctionnaires, ce qui signifie dans mon modèle enseignant, et les autres vont tous travailler dans le secteur privé. Si l'entropie est infinie, eh bien à ce moment-là, il y a un mélange complet entre les gens et les fonctionnaires. Les croyances des fonctionnaires sont représentatives de celles de la société. Enfin, dans ce modèle, il y a un processus de révision des croyances. Si je vais dans le secteur privé, à ce moment-là, j'ai un tirage. Je vais perdre mon emploi ou ne pas perdre mon emploi. Et ça, ça va me permettre de réviser mes croyances sur la vraie valeur de la précarité dans cette économie. Par contre, si je vais dans le secteur public, je n'ai pas de tirage. Et donc, je ne peux pas réviser mes croyances sur le fonctionnement de l'économie de marché au moyen de ma propre expérience. Et donc la croyance postérieure est égale à mon prior. Ce que je transmets à mes enfants, c'est mon prior. Il y a deux forces contradictoires, enfin qui peuvent être contradictoires ou qui peuvent aller dans le même sens suivant la vraie valeur, suivant le vrai fonctionnement de l'économie, c'est-à-dire suivant que l'économie de marché soit une bonne chose ou une mauvaise chose. Il y a l'expérience parentale qui, parce que les parents transmettent leur expérience personnelle sur le marché à leurs enfants, crée les conditions d'une convergence intergénérationnel des croyances vers la valeur correcte de la précarité. Et il y a le biais de sélection des croyances des enseignants qui crée un biais vers une précarité élevée. Si la précarité est réellement élevée, à ce moment-là, les enseignants accélèrent la convergence vers la bonne croyance. Si par contre la précarité est faible et si l'économie de marché est une bonne chose, les enseignants ralentissent la convergence vers la vraie valeur de la précarité. Donc dans mes simulations, je suppose que ça reflète mon propre biais idéologique. Je me suis cantonné au cas où l'économie de marché est une bonne chose. Mais évidemment, le modèle s'applique également au cas où c'est une mauvaise chose. On trouve que, bon, malgré ce biais des enseignants, si l'entropie et l'héritabilité sont assez élevées, c'est-à-dire s'il y a suffisamment de mobilité sociale, des intergénérationnelle des gens entre fonctions publiques et secteur privé, et si la famille a un poids suffisamment élevé dans la transmission des croyances, à ce moment-là, on converge vers la bonne croyance à long terme, qui est P égale 0. Le biais d'autosélection des enseignants n'est pas suffisant pour empêcher l'apprentissage du fait que l'économie de marché est une bonne chose. Cependant, et ça m'a un peu surpris, au-delà d'un certain seuil, si ces deux variables sont faibles, à ce moment-là, on converge vers une valeur intérieure de P. L'économie, la société est incapable d'apprendre que l'économie de marché est une bonne chose. Et cette valeur de P est d'autant plus forte que l'héritabilité et l'entropie sont faibles. Donc voici quelques simulations. Alors ça, c'est le cas où l'héritabilité est égale à 100%, c'est-à-dire l'école n'a aucun impact sur les croyances des gens, ce qui est peut-être ce qui se passe dans certains quartiers, je ne sais rien. Mais je suppose que les parents n'ont pas non plus beaucoup d'impact dans ces quartiers. Et à ce moment-là, ce qu'on constate, c'est qu'on converge on converge vers P égale 0. Et il y a un biais des enseignants, mais c'est avec une entropie relativement élevée. Donc le biais des enseignants est relativement faible dans cette situation. Alors ça, c'est ce qui se passe si je réduis l'héritabilité, si l'école intervient dans les croyances pour 50%. Et là, on trouve qu'au début, le biais de sélectivité des enseignants fait en sorte que les premières générations deviennent de plus en plus hostiles à l'économie de marché. Mais il y a quand même un apprentissage par la famille qui se fait. Et donc, on finit quand même par converger. Bon, mais on converge quand même plus lentement qu'avec une héritabilité totale. Alors ça, c'est ce qui se passe si je diminue l'entropie considérablement. Donc là, il y a beaucoup plus de sélection des enseignants. Si j'ai des croyances négatives envers l'économie de marché, je vais être enseignant à 95%. Si j'ai des croyances positives, je vais être enseignant à 5%. Et là, ce qu'on trouve, c'est que la convergence est beaucoup plus lente. Au début, les croyances des professeurs sont très biaisées par rapport aux croyances de la population. Et ça fait évoluer très rapidement les croyances de la population vers les croyances des professeurs. Et après, ça baisse un peu, mais sur 50 générations, ça reste à un niveau quand même très élevé. Alors si on prolonge les simulations, on se rend compte que ça finit quand même par converger, mais la convergence est très lente. Bon, il y a deux cas limites intéressants. Lorsque l'entropie est nulle, c'est-à-dire que il n'y a plus aucune mobilité sociale, entre guillemets, des enseignants, à ce moment-là, l'économie converge vers P égale 1, une hostilité générale à l'économie de marché. Parce que la seule source de mobilité sociale chez les enseignants, c'est que quelqu'un était relativement hostile à l'économie de marché, mais pas assez pour être enseignant. Il est allé sur le marché du travail, il a eu une mauvaise expérience, il s'est retrouvé au chômage, et donc il a transmis à ses enfants une croyance comme quoi l'économie de marché, c'est vraiment pas bien. Donc ces enfants, eux, vont avoir une croyance plus hostile envers l'économie de marché que l'individu qui est indifférent entre être enseignant et non-enseignant. Donc ils vont devenir enseignants, mais ça, évidemment, il va y avoir un effet de composition. Ils vont déplacer l'individu marginal vers l'économie de marché. Et donc la croyance moyenne des enseignants va être encore plus hostile à l'économie de marché. Et comme il n'y a aucune entropie, eh bien, à chaque période, les enseignants sont un peu plus hostiles à l'économie de marché parce que leur rang se renforce des enfants de ceux qui en ont bavé sur le marché. Enfin, lorsque l'héritabilité est nulle, c'est-à-dire que il n'y a plus que l'école qui affecte les croyances, eh bien, on se montre qu'il y a dépendance par rapport aux conditions initiales, effet papillon. Donc si on part de croyances qui sont hostiles à l'économie de marché, au début, eh bien on va rester à des croyances hostiles à l'économie de marché à long terme. Inversement, si on part de croyances qui sont favorables à l'économie de marché, on va rester plus favorable à l'économie de marché à long terme. Mais évidemment, la distribution asymptotique des croyances est loin d'être uniforme. Elle tend à être concentrée vers P égale 1, puisque le fait que l'héritabilité soit nulle met un poids important sur le biais du système éducatif. Donc cette figure illustre quand l'héritabilité est égale à zéro et l'entropie relativement élevée, la distribution des croyances à long terme, on voit que le gros des croyances est quand même concentré vers 0,8, 0,9 et 1, suivant les conditions initiales. Donc pour conclure, qu'est-ce qu'on a appris ? Eh bien essentiellement, ce modèle nous dit que l'hostilité envers l'économie de marché peut persister si, premièrement, la reproduction sociale des enseignants est élevée, c'est-à-dire l'entropie est faible, et deuxièmement, le poids de l'école relativement à la famille est élevé dans la formation des croyances, c'est-à-dire l'héritabilité est faible. Alors si on réfléchit un peu, j'ai pas eu le temps d'obtenir des données sur la reproduction sociale des enseignants, enfin j'ai des données mais pas sur l'évolution dans le temps de cette reproduction sociale. En ce qui concerne le poids de l'école relativement à la famille, je pense que sur longue période on peut dire qu'il a augmenté puisqu'il y a une offre il y a une hausse de la participation féminine au marché du travail, le développement des modes de garde parascolaires, etc. Donc je pense que tout le monde sera d'accord pour dire qu'effectivement il y a une baisse de l'héritabilité. On peut aussi accuser, les jeux vidéo, etc. Par contre, sur la reproduction des sociales des enseignants, les données que j'ai obtenues montrent qu'elle est effectivement relativement élevée, mais je ne sais pas si elle est plus élevée qu'il y a 50 ans. Et voilà, je conclue là-dessus.